Bonjour et bienvenue dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Graphite en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Aujourd'hui, nous avons des chroniqueurs en herbe qui viennent de la bibliothèque, des ateliers qu'on a fait tous les mercredis soirs, à 17h30 jusqu'à 19h. Nos chroniqueurs sont venus pour apprendre à écrire ces chroniques, choisir leurs thèmes et les partager avec vous. Aujourd'hui, nous avons dans le studio la Marin en balade.
Bonjour.
Miss Kilt.
Hello.
Patty pour la littérature, l'argent et nous.
Bonjour.
Et Bad Cave.
Salut.
Ouh. Je vous propose de commencer tranquillement ce matin et peut-être même avec gourmandise, car la Marin nous emmène en balade.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
La Marin baladeuse est gourmande, une invite littéraire à cheminer et déguster, peut-être. Sur les traces de Marcel Proust, passons de Honfleur à Trouville. Marcel, jeune, se rend chaque été à Trouville avec sa grand-mère et son frère Robert. Il y soigne son asthme. Et pourtant, déplore-t-il, en général, tout ce que je trouve joli, normand, enfoui sous le chèvrefeuille, n'est pas fameux pour moi. Alors, pour qui Trouville est-elle fameuse ? Boudin, Courbet, Monet, Corot, Bonnard, Degas, Dufy, qui peindront son incomparable lumière et sa longue plage de sable ocre ? Ou peut-être Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Et oui, Trouville était un petit village de pêcheurs avant de devenir la reine des plages, détrônant dans les années 1850 Dieppe et le Tréport, devenant ainsi l'annexe de la capitale en été, ce en particulier grâce au train cher à Proust. 5 heures de Paris en 1863, 2h08 aujourd'hui.
Et comme quoi la SNCF, ils font des progrès.
Voilà. Entre Trouville et Honfleur, sur la hauteur est le plus admirable pays qu'on puisse voir. Et là, il y a des habitations connues seulement des artistes et devant qui j'ai entendu des millionnaires s'écrier « Quel malheur que j'ai un château au lieu d'habiter ici !» De la somptueuse villa, le clos des mûriers de Geneviève Strauss, veuve de Georges Bizet, Carmen. « L'amour est enfant de bohème !» Marcel écrit « Si votre villa regarde la mer, elle doit l'apercevoir entre les feuillages. » Je vous conseille une promenade à pied très jolie, qui s'appelle les Creuniers. De là, tous vos soucis, tous vos chagrins, vous apparaissent aussi petits que les petits bonshommes ridicules qu'on aperçoit en bas sur le sable. Ces villas encore présentes de nos jours ont la chance de surplomber la corniche. Villa Montebello, construite pour la marquise du même nom. Musée de la ville depuis 1972. Tour Malakoff, atypique, ressemblant à un château fort. Villa des Flots, en bout de plage, accueillit la famille Eiffel. Villa persane, style oriental, propriété de la princesse de Sagan, qui inspira Proust. Hôtel des Roches Noires, résidence privée depuis 1949. Mais si vous ne résidez dans l'une d'elles, je vous mets au défi aujourd'hui de trouver une simple trouée sur la falaise qui permette encore de jouir de cette vue imprenable. Ce fameux chemin des Creuniers, qui offrait une magnifique vue sur la mer, est aujourd'hui impraticable, entravé par la pose de barrières métalliques. Faut-il y voir une privatisation du bord de la falaise ? Mais revenons à Marcel. Durant l'été, Proust réside dans une de ces villas. Appartement 110, hôtel des Roches Noires. L'hôtel porte le nom des falaises. 4 kilomètres, bordant la plage de Trouville, auparavant labyrinthe sombre et effrayant. La légende dit qu'un géant de pierre y semait la terreur. Une fée, la fée des Creuniers, le poursuivit dans la mer et le transforma en rocher. Oh Marcel, nous sommes en bas, sur le mythique chemin des planches, appelé désormais Balade Savignac. Vous n'avez pas une petite faim ?
Oh, ah, toujours.
Cette campagne, la plus riche de France, qui, avec son abondance intarissable de fermes, de vaches, de crèmes, de pommiers à cidre, de gazons épais, n'invite qu'à manger et à dormir. Dans les fermes restaurants des alentours, Marcel boit du cidre et mange du pain brillé, introduit au XIVe siècle par des moines espagnols. On a dans ces chemins un parfum mêlé de feuillets, de lait et de sel marin, qui me paraît plus délicieux que les mélanges les plus raffinés. Marin ? Vous avez dit marin ? Port de pêche ? En 1825, Trouville compte 5 parcs à huîtres. Aujourd'hui, les chalutiers pêchent la coquille Saint-Jacques, la crevette grise et différents poissons. Bar, sol, carlé, turbo. Mais le symbole de Trouville, c'est... C'est... Quelqu'un sait ? Non ? Ah, c'est pas Marcel.
Non.
C'est le maquereau.
Ah, mais oui.
Voilà. Alors, à bientôt pour la suite de notre balade aux alentours de Trouville.
À bientôt.
Merci la marin pour ces paysages et ce petit bout de chemin à l'air frais et pur de la côte.
Et le maquereau à goûter.
Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'a mis en appétit. Et si on traversait la Manche pour casser la croûte avec Miss Kilt ?
Wow. Avec joie.
Mais il pleut tout le temps en Écosse. Non, sauf quand il fait beau. Parcourir l'Écosse, c'est découvrir mille et une beautés. Et si c'est à pied, votre appétit sera d'autant plus aiguisé. De plus, les spécialités culinaires d'un pays peuvent s'avérer tout à fait intéressantes pour connaître des pans de son histoire. Alors, pas d'hésitation. Et si je vous demande de me citer des spécialités écossaises, quelles gourmandises ou plats roboratifs vous viennent à l'esprit ?
La ponce de Robbie Firthy.
Le fish and chips ?
Le fish and chips, absolument. Ce célèbre plat servi dans tout le Royaume-Uni, dont l'Écosse fait partie, est un incontournable et si identitaire à ces grandes îles de la mer du Nord. En Écosse, ce délicieux morceau de cabillaud, généreusement pané et servi avec des frites arrosées de vinaigre, est présent sur toutes les cartes des restaurants. La pêche et son commerce font partie de la vie des Écossais. Ainsi, le poisson et autres produits de la mer sont des ingrédients omniprésents dans la nourriture quotidienne des habitants. Le saumon écossais aussi, qui est réputé pour sa haute qualité, car les eaux froides des lochs, signifiant lac en écossais, offrent des conditions idéales à sa croissance. Comme vous le savez probablement, l'Écosse ne manque pas de villages de pêcheurs, ce qui signifie que vous aurez certainement l'embarras du choix en termes de dégustation de poissons et de fruits de mer, moules, huîtres, homards, crabes, cabillauds, truites, haddock. D'ailleurs, à propos du haddock, je vous conseille une autre spécialité, moins connue cette fois, mais particulièrement revigorante après une longue marche dans les embruns. Il s'agit du Cullen's King, une soupe de poissons dont l'ingrédient principal et l'aigle fin fumé, plus connu sous le nom de haddock, justement. Cette soupe, originaire du village de Cullen, dans la région du Moray, dans le nord-est du pays, est également composée de pommes de terre et d'oignons. Elle est riche en saveurs. Essayez-la, elle vous réchauffera. Mais revenons sur terre et goûtons le fameux haggis, le plat national écossais. N'écoutez surtout pas sa description avant. Testez-le et vous l'inscrirez dans vos favoris. Pendant longtemps, j'ai évité ce mets à cause de sa description peu attirante. Et pourtant, il est excellent lorsqu'il est bien préparé. Il s'agit en fait d'une panse de brebis farcie, d'une préparation à base de viande et de pommes de terre assaisonnées. Cette sorte de hachis gourmand et savoureux est souvent accompagnée de purée de navets et se déguste lentement. Juste un conseil, pour partir sur une première bonne expérience, choisissez un restaurant de qualité afin d'apprécier l'excellence de ce plat. Fait maison, il est bien meilleur que fabriqué industriellement pour les touristes. car cela altère fortement sa qualité gustative. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou la faim, car il faut vraiment avoir faim pour consommer ces deux célèbres desserts, ou bien alors prévoyez juste quelques petites feuilles de salade avant. Pour commencer, voici le clotchy dumpling. D'où vient ce nom ? Dumpling va se traduire par boulette. En effet, le gâteau se présente en boule, enrobé de sucre roux ou plus souvent de mélasse. Quelle surprise la première fois qu'il vous est servi dans votre assiette. Et clotchy signifie vêtement en écossais, clothes en anglais. Mais pourquoi, me direz-vous ?
Oui, pourquoi ?
Eh bien, c'est tout simple. Ce gâteau, facile à réaliser, est cuit enveloppé dans un linge, dans de l'eau bouillante. Il est souvent confectionné pour Noël, le Nouvel An ou pour les anniversaires. Farine, lait, épices, raisins secs, sucre, mélasse. C'est succulent, mais attention, il est vraiment très sucré et curieusement ne comporte pas d'œufs. À découvrir au moins une fois. Reprendrez-vous un peu de dessert ?
Allez.
Mais oui, il faut absolument goûter le Cranachan.
Of course.
Of course. Ce traditionnel dessert est simple, mais tasty, comme on dit. Autrefois, il était servi en l'honneur de la récolte des framboises en juin. Aujourd'hui, grâce à la congélation, il est possible de le déguster toute l'année. Bien sûr, le mieux est d'attendre la saison des framboises. Il n'en sera que meilleur. Très facile à réaliser. Je vous donne la recette. Dans des verrines, versez de la crème fraîche, des framboises, des flocons d'avoine et du whisky écossais. Cela va sans dire. Et la transition est toute trouvée. Je vous conseille, je ne vous ai pas encore parlé du royal breuvage qu'est le whisky écossais. Et pour cela, je vous conseille vivement de visiter une distillerie. La dégustation est toujours gratuite à la fin du parcours. Le goût et les arômes sont époustouflants. Et dans les boutiques, vous pourrez ensuite faire quelques achats que vous ne regretterez pas. Avec modération, bien entendu. Dans les mêmes couleurs ambrées et chatoyantes, j'invite le thé, évidemment. Il nous ravit tellement. Cette fois, sans modération, il est si bon et réconfortant et facile à préparer. Un ice cappa, ça vous plairait ? Sur ce, je souhaite à toutes nos auditrices et nos auditeurs un excellent breakfast.
Merci Miss Kilt. Bah écoute, moi je ne dirais pas non à un breakfast.
Mais il pleut tout le temps en Écosse. Peut-être. Mais il y a le thé et le whisky pour nous soutenir.
Allez, un petit remontant. Alors, peut-être pas à cette heure-là encore, mais à l'apéro peut-être.
Absolument.
Eh bien, je vous propose une petite pause musicale. Un groupe qui s'appelle Simple Minds. Et j'ai choisi une version justement en live de 2015 à Édimbourg. Comment on dit déjà avec l'accent, Miss Kilt ?
Édimbourg.
Thank you. Il s'agit du titre Alive and Kicking. Ça réveille. Et cette fois-ci, je ne parle pas de vos papilles.
Yeah.
Et nous voici de retour sur Graphite dans la matinale
infernale.
Il est temps maintenant pour Patty de nous raconter la suite de son analyse d'un grand classique dans sa chronique La littérature, l'argent et nous.
Eh oui, la première... La première partie de cette chronique, consacrée au roman d'Émile Zola, L'Argent, parlait du contenu du livre. Dans cette seconde partie, nous allons nous demander à quel événement contemporain le roman de Zola peut-il être assimilé. Grâce à la modernité de son style, nous pourrions faire un parallèle entre ce qui arrive dans le roman et la crise des subprimes que nous avons vécue il y a une quinzaine d'années. Déclenchée aux États-Unis en 2007-2008, la crise des subprimes trouve son origine dans un excès d'endettement des particuliers. Du fait de l'interdépendance économique et financière entre les pays, elle s'est rapidement propagée au monde entier. Bien que la crise des subprimes et le roman L'Argent d'Émile Zola soient ancrés dans des contextes historiques différents, voici 5 points de convergence possibles. Premièrement, la spéculation financière. Dans L'Argent, le roman d'Émile Zola traite de la spéculation et de la corruption dans le monde des affaires, tandis que la crise des subprimes était en partie alimentée par une spéculation excessive sur le marché immobilier. Deuxièmement, l'avidité et la corruption. Les personnages du roman L'Argent sont motivés par l'avidité, la recherche du gain rapide et la corruption. De même, la crise des subprimes a été aggravée par des pratiques financières imprudentes, une quête excessive de profit et des comportements parfois corrompus dans l'industrie financière. Troisièmement, les conséquences sociales. Les deux situations ont des conséquences sociales graves. L'argent dépeint les effets dévastateurs de la spéculation sur la société avec des conséquences économiques et humaines dramatiques. De manière similaire, la crise des subprimes a entraîné des pertes massives d'emplois, des saisies immobilières et a eu des répercussions importantes sur l'économie mondiale. Quatrièmement, la critique sociale. À la base, l'argent est une critique sociale qui explore les failles du système financier et souligne les inégalités sociales de son époque. De même, la crise des subprimes a été largement interprétée comme une conséquence des défaillances systémiques du secteur financier et a suscité une réflexion critique sur le fonctionnement du système. Cinquièmement, la manipulation des marchés. Les deux situations impliquent une certaine forme de manipulation des marchés. Dans l'argent, on voit des manœuvres spéculatives et des manipulations boursières. Dans la crise des subprimes, il y a eu des manipulations de produits financiers complexes contribuant à l'effondrement du marché immobilier. Comme différence entre la crise des subprimes et le roman L'Argent, il y a bien sûr le contexte historique et l'échelle qui ne sont pas les mêmes. L'Argent est une œuvre de fiction qui reflète le contexte économique et social de la France du 19e siècle, tandis que la crise des subprimes était une réalité économique complexe du début du 21e siècle, influencée par des facteurs mondiaux. La prochaine chronique, La littérature, l'argent et nous, s'attachera au roman de fantasy La fileuse d'argent, plus récent que le roman de Zola et tout aussi intéressant par d'autres aspects.
Eh bien, nous avons hâte d'écouter ça la prochaine fois. Et merci de nous avoir donné le fin mot de l'histoire avec cette analyse sur Zola. Parce que, on attendait la suite.
Et ben voilà, c'est fait.
Moi, je vais prendre la suite de ces chroniques infernales avec les fameuses erreurs de débutants des auteurs. All I'm asking you is don't write me off just yet. Vous êtes-vous déjà arrêté devant un livre dans un rayon parce que sa couverture vous avait interpellé ?
Oui, hein. Oui. Bien sûr.
C'est normal, parce que c'est là tout le principe d'une première de couverture. Ça ou être reconnu, parce que certaines collections sont très sobres, mais on les identifie en un clin d'œil. Donc voilà, votre récit est fini et vous êtes prêt pour la phase d'édition.
Wow.
Donc vous avez accompli tout le travail de relecture et de réécriture dont je parlais dans ma précédente chronique. Alors là, je vous dis bravo. Bravo avec un grand B, parce que c'est toujours une belle aventure et un bel accomplissement. Mais n'allez pas croire que votre boulot est terminé. Ce serait une erreur de débutant. C'est à vous de vérifier la maquette de votre ouvrage. Pourquoi ? Parce que vous seul savez comment vous souhaitez que votre récit soit mis en valeur. C'est vrai si vous êtes édité dans une maison d'édition. C'est vrai si vous avez choisi l'auto-édition, même encore plus vrai. Alors, à quoi faut-il particulièrement prêter attention quant à la forme de votre ouvrage ? La couverture, évidemment, on vient d'en parler. Que doit-elle contenir ? Le titre du roman, votre nom d'auteur, souvent il y a aussi le logo de l'éditeur, et le plus souvent, il y a une illustration. Cette illustration peut être faite par votre éditeur, par un illustrateur indépendant, ou ça peut être aussi une photo. Quelle qu'elle soit, elle doit poursuivre un but bien précis, celui de mettre en valeur votre récit, d'accrocher l'œil du lecteur et d'illustrer votre titre ou de le compléter. J'insiste là-dessus car énormément de personnes se disent que la couverture, bien sûr, ça doit accrocher, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le bouquin. Eh bien non, j'ai lu récemment un livre d'une autrice auto-éditée qui avait d'autres livres à son actif, je vais y arriver. Hein. Mais la couverture n'était pas très attrayante, je dois avouer. La photo choisie était assez quelconque, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, peut-être que je vais comprendre en lisant le roman. Mais finalement, non. Cette photo n'avait pas de rapport évident avec l'intrigue, ou alors je n'ai pas vu, mais bon, quand même. Le titre ressortait légèrement pixelisé, et tout ça, ça donnait pas franchement une impression de qualité du roman. Alors, je ne me suis pas arrêtée là-dessus pour le lire quand même, mais j'avoue que j'ai été déçue en fin de lecture de ne pas comprendre le rapport entre la couverture et le récit. Et si j'étais passée devant ce livre dans un salon ou dans un rayon, clairement, je ne me serais pas arrêtée dessus. Hein. Quand je suis en salon, moi, AYG, j'ai bleu autrice, hein, je présente ma trilogie fantasy L'Onéida, Souvent, je fais des salons un peu sur le thème geek et fantasy, donc voilà, c'est ça que je présente plus en avant. Évidemment, je vais engager la conversation avec les lecteurs qui passent, je vais leur pitcher mon roman, mais au-delà de ça, c'est quasiment un acheteur sur trois qui s'approche de mon stand parce qu'il a été happé par la couverture du roman. Et là, je profite pour remercier mon illustrateur Édouard Noisette pour ses merveilleuses illustrations de l'Oneida. Mais voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste spécialement sur la couverture. Mais bon, à quoi d'autre faut-il encore prêter attention quant à la forme d'un ouvrage ? Eh bien, il y a la mise en page intérieure. Alors ça va peut-être vous paraître idiot, mais attention aux tirés de dialogue qui doivent être alignés, suivis d'espaces insécables ou de tabulations pour que le texte qui suit soit lui aussi aligné. Ne mettez pas de tirés quand il s'agit de discours indirects. Si, si, j'ai déjà vu, je vous assure. Et si vous choisissez de commencer vos chapitres toujours sur la page de droite, veillez-y. Même remarque si vous les commencez avec une petite illustration ou si vous les commencez en milieu de page. Chaque début de chapitre doit ressembler aux autres. Il faut que votre ouvrage soit uniforme, sauf volonté contraire et assumée. En fin de roman, pensez aux remerciements, à un éventuel sommaire pour lister vos chapitres et à des pages sur vos ouvrages déjà parus. On termine bien sûr avec la quatrième de couverture. Qu'allez-vous y mettre ? Un synopsis de votre récit, assurément. Une présentation de vous ? C'est pas obligatoire, mais c'est possible, avec ou sans photo. Ou des images d'autres livres de la même saga ou de la même collection. En tout cas, il va falloir faire un choix, et ce choix, ça doit être le vôtre, celui de l'auteur. J'espère que ces modestes conseils vous auront aiguillé si vous êtes auteur, et que vous, lecteurs et lectrices, vous prêterez plus attention encore de façon consciente à ces détails lors de votre prochain choix de lecture. Eh bien, notre émission va bientôt toucher à sa fin, mais pas encore, pas avant la chronique Post-Punk Forever de notre ami Bad Cave.
Salut les optimistes, moi c'est Bad Cave. Laissez-moi plomber un peu l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen, je vous assure, c'est excellent pour la santé. Aujourd'hui, je voudrais partager l'une de mes premières expériences post-punk, l'écoute de l'album pornographie du groupe The Cure. J'avais 14 ou 15 ans et comme tous les adolescents, je traversais une période de turbulence entre deux âges de relative stabilité. Avec la musique, aussi la musique post-punk comme les films d'horreur, les thrillers ou encore la poésie de Charles Baudelaire s'accordait à merveille avec mes humeurs du moment. J'aimerais plus particulièrement porter votre attention sur une chanson de l'album dont le titre paraît ironique et paradoxal, car 30 ans après sa première écoute, il ne me laisse toujours pas indifférent. A Short Term Effect, un effet à court terme en français, résume très bien le pessimisme post-punk. Il raconte la fragilité et l'insignifiance que peuvent représenter nos vies humaines. Morceau obscur, dense et inquiétant, il m'avait saisi d'un frisson qui pouvait bien être le souffle glacial de la mort elle-même, à la fois menaçante et fascinante, rôdant sans cesse autour de nous, simples mortels. Chez de nombreux post-punk, il existe en effet une attirance pour la morbidité, les thèmes du repos éternel, de la mort violente, des corps meurtris, autant de phénomènes dérangeants. Ou bien complètement indifférent si vous êtes déjà arrivé, et je vous le souhaite à une certaine maturité. Robert Smith, chanteur du groupe The Cure, protagoniste central du courant musical qui nous intéresse, évoque ainsi l'enregistrement de leur album phare Pornographie sorti en 1982. Le groupe avait été en tournée 200 jours d'affilée. On était lessivés, déprimés, ébrouillés. Cet album devait mettre fin à notre parcours ensemble et dégager une atmosphère post-apocalyptique. Nous nous sommes alors procurés des films et des images très dérangeantes pour nous mettre dans l'ambiance. Nous avons alors plongé dans le côté le plus sordide de la vie. Nous avions à peine la vingtaine et ces images nous ont durablement choqués. Nous sommes descendus très bas, physiquement et moralement. Après coup, je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. D'un point de vue artistique, cela en a valu la peine, car l'album Pornographie, chargé à blocs de négativité, est devenu culte et une référence incontournable en matière de rock dark sombre. Dans le morceau A Short Term Effect, hallucinogène sonore que je vous propose d'ingurgiter à la fin de cette chronique, tout nous renvoie à la descente aux enfers, à la chute vers un sommeil sans fin ou bien dans la folie. Dans les paroles affleure le thème de la perte de la rationalité, mais aussi celui du crime de sang, du basculement vers le mal. Tout est confus et difficile à démêler, comme dans un songe. Musicalement, la répétition hypnotique d'une suite d'accords descendants vers les graves, l'écho et la réverbération appliqués à la voix du chanteur et aux guitares renforcent l'impression de chute. Un motif de guitare dissonant, car défilant à l'envers par rapport au sens réel de l'enregistrement, ajoute à l'idée de chaos. L'impression générale est celui du rêve, du cauchemar ou du bad trip. L'auditeur est comme engouffré dans une spirale dont il ne peut se sortir, comme piégé dans une toile d'araignée géante, comme dégringolant dans le terrier des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. D'une certaine façon, le post-punk est psychédélique, parce qu'il invite à planer. Ce morceau illustre bien combien la musique pop a la capacité d'explorer et de jouer avec la part sombre de l'être humain, avec nos peurs, nos traumatismes. Elle peut nous captiver par sa noirceur, tout comme peut le faire une scène d'autopsie dans un thriller, ou une exécution publique d'un condamné dans un film historique, ou encore la description d'une charogne dans la poésie de Baudelaire. J'ouvre ici une parenthèse. Je me suis posé la question de ce qui pouvait rendre cette morbidité si attrayante, ludique, voire indispensable lorsque j'avais 15 ans. J'ai trouvé une piste sur le site web de Colton Scrivener, chercheur en sciences cognitives et fondateur du laboratoire de la peur récréative à l'université d'Aarhus au Danemark. Ce chercheur, qui a posté sur son site un test de curiosité morbide, accessible à tous gratuitement, mais attention, c'est en anglais, avance en effet que le goût de la morbidité dans la jeunesse est un moyen de se familiariser avec des situations dangereuses et de se préparer symboliquement à les affronter. C'est une phase normale du processus de maturation. Il écrit « Nous pouvons utiliser des expériences fictives effrayantes pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes et peut-être même améliorer notre façon de gérer les expériences anxiogènes. » Écouter de la musique post-punk pourrait s'apparenter au visionnage d'un film de fiction ou d'un documentaire sur un tueur en série ou un malade souffrant d'une pathologie atroce. On se plonge dans le malaise pour apprendre à surmonter la part glauque de la vie. Scrivener a mis en lumière le concept singulier de dark copper, c'est-à-dire approximativement en français, personne qui s'en sort avec la part sombre de la vie. Les ténèbres post-punk ont peut-être, elles aussi, comme vertu de faire de nous des dark copper, des personnes virtuellement familiarisées avec l'horreur, le mal, mais qui ne se laissent pas pour autant entraîner, je vous rassure, dans le cynisme et l'insensibilité. Pour ceux qui ne craignent donc pas de subir les effets à long terme et irréversibles d'une drogue au goût amer sur leurs oreilles, leur subconscient et leur équilibre émotionnel, voici un short-term effect, à écouter de préférence seul, dans le noir et le volume à fond. Bonne journée à vous.
Merci Matt Cave. Effectivement, on va terminer l'émission, je vais arriver, avec ce morceau-là. Pendant que je parle comme ça, les auditeurs ont le temps de se mettre en condition. On a dit tout seul, dans le noir et...
Et le volume à fond.
Et le volume à fond, voilà. Donc je vous laisse faire ça. Je remercie mes chroniqueuses du jour, la marin baladeuse, Miss Kilt et Patty. Et puis bien sûr, notre chroniqueur, Bad Cave. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale...
Infernale !
Et donc, on vous laisse dans le noir avec The Cure, A Short Term Effect. We'll be right back.
Push your mouth.